un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans cette moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Dans un immense entrepôt, des montagnes de caisses en bois, de caisses en plastique, voient circuler les membres de la famille d'Harpagon, tantôt mis à niveau par des transpalettes, tantôt assommés par la paroi d'une sorte de food truck. Les mots de Molière ont investi les coulisses d'une fabrique ou d'un supermarché. Qu'est-ce qu'on y vend ? Du rêve, peut-être, des femmes, on vend l'espoir d'une deuxième chance dans la vie du vieil homme fortuné. Alors plus qu'une pièce sur l'avarice, vous montez Ludovic Lagarde une pièce sur l'habileté du langage amoureux lorsqu'il se sait empêché, la confusion des sentiments d'une génération à l'autre et sur ce que l'on est prêt à payer pour ce qu'on s'imagine du bonheur. De toute façon, quand on croit parler d'argent, on parle souvent d'autre chose. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
Votre avare de Molière sera visible du 2 au 30 juin au Théâtre de l'Odéon à Paris, après avoir un petit peu voyagé quand même, et avoir été créé surtout à la Comédie de Reims. Vous expliquez, vous racontez, Ludovic Lagarde, que vous découvrez l'avare de Molière dans une librairie sans en avoir aucune représentation théâtrale, imaginaire, préalable. Qu'est-ce qui vous arrête ?
Le texte. Vraiment, très simplement le texte. En fait, je cherche une pièce à l'époque pour ouvrir la saison de la Comédie de Reims. Que je dirige depuis presque 10 ans maintenant. Je sais qu'il y a une équipe d'acteurs, de jeunes comédiens qui sont permanents à ce moment-là à Reims, que Laurent est libre.
Laurent Poitrenaud, et
je cherche une pièce et je lis. Et comme souvent, dans ces moments-là, on relit, on réouvre, on lit, on redécouvre, on découvre. Surtout le répertoire. Alors je réouvre Marivaux, les pièces de Brèche fétiche, les choses qu'on laisse. On se dit, ah, c'est pas pour cette fois, hein, peut-être plus tard, on verra. Et puis par hasard, vraiment, à Lorient, à la Fnac de Lorient, je cherche une pièce de Marivaux et je trouve l'avare et je l'ouvre comme ça. Et en quelques secondes, je suis saisi, je suis pris. C'est curieux. Et donc je pars avec et je la découvre au fond, parce que des représentations, j'en ai, mais un peu, je dirais, pas comme un amateur de théâtre, comme un profane, comme tout le monde, enfin. C'est-à-dire, j'ai des souvenirs d'enfance de Louis de Funès, j'ai quelques images d'une mise en scène très importante et célèbre, mais que je n'ai pas vue, celle de Planchon. Donc j'ai quelques images en moi, mais au fond, je ne connais pas cette pièce, finalement. Je ne la connais pas vraiment. Et je la découvre vraiment comme on découvrirait un texte. C'est ça qui est marrant. Comme si ça avait été écrit hier et que je découvrais ça, vraiment comme ça.
Et de quelle manière on découvre un texte ? Ça semble être une sorte de plaisir ou d'attitude qui est assez précise, ouais, pour vous.
Ben, par exemple, le début de cette pièce est étonnant, parce que d'abord, on découvre une prose, enfin, l'écriture de Molière, de manière très innocente. C'est pas une pièce en vers, c'est de la prose, c'est une prose très assez simple, au fond, très proche de... On dit la langue de Molière, parler du français, c'est vraiment notre langue aujourd'hui, je crois, enfin, très proche. Et puis, je la trouve tout d'un coup très, très dark, très noire, très enfiévrée, avec le début de cette pièce où on découvre ces jeunes gens, un peu, je sais pas, la fureur de vivre.
Un frère et une sœur qui,
ouais,
échangent sur leurs états amoureux, en fait.
C'est ça, et puis sur leur empêchement, et sur leur passion, ouais, et sur la frustration, et sur. Et avec. Une chose presque un peu morbide, enfin, on comprend qu'Élise a fait une tentative de suicide, que Valère l'a sauvée, que le fils est prêt à tout pour conquérir Marianne, enfin, donc il y a tout de suite, au fond, des grands sentiments, des choses très fortes, encore une fois, assez noires, enfiévrées, et qui m'apparaissent comme, tout d'un coup, très contemporaines, ou très proches de ce que je peux ressentir de mon époque.
Et ça, éventuellement, curieux, des jeunes gens qui étaient permanents à la Comédie de Reims.
Alors, oui, tout de suite, évidemment, je me projette. C'est ça qui est assez amusant quand on a la chance d'avoir une troupe ou avoir des acteurs permanents, des acteurs comme Laurent avec qui on a construit une grande fidélité. Quand on lit, on peut tout de suite lire avec eux et les voir dedans.
Vous parliez petites menues représentations qui restaient quand même dans votre imaginaire, comme celui d'un amateur, de quelqu'un lambda, donc éventuellement, et puis on l'entendra à la toute fin de cette émission, Louis de Funès. Et peut-être, alors si moi je pars de mes propres représentations d'amateur, ce serait une pièce sur l'argent, vraiment une pièce sur l'avarice, la cassette, quelqu'un qui hurle, bon. À la fin des 2h35 de la représentation, on s'est dit, mais c'est marrant, les monologues que j'entendais, les choses dont il me semblait que c'était le cœur battant de l'avare, je ne les ai pas entendues, et j'ai complètement entendu autre chose.
Voilà, c'est rigolo, c'est pas mal. Enfin, oui, parce que, encore une fois, les clichés ou les chromos enfin de cette pièce, c'est-à-dire vraiment la cassette, l'or, le pixou, ça fait partie un peu du folklore. Donc évidemment, quand on se plonge dedans, on découvre que vraiment il y a ça, bien sûr, mais que c'est les rapports humains et la perversion que cette rétention d'argent et que la frustration qu'elle engage produit, qui est le sel de la pièce. Et entre autres choses, ça m'a aussi beaucoup intéressé, je ne le savais pas au début, mais Molière, d'abord, le titre de cette pièce était quelque chose comme l'école du mensonge. Tout le monde se ment, effrontément. Et ça, j'en ai eu très vite, là, comme ça, le parfum, en la lisant, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe dans cette pièce ? Les gens se mentent, mais de manière folle, et se manipulent.
Et parfois pour se dire « je t'aime ». Parfois, on entend clairement Valère mentir à celle qu'il aime devant son père, mais c'est une déclaration.
C'est ça, tout est faussé. Et tout est faussé par la tyrannie qu'exerce Harpagon. Alors, une tyrannie qui peut s'énoncer de manière soit violente, avec des aspects politiques, soit de manière extrêmement séduisante, soit de manière... ou par la langue, mais elle s'exerce. Et donc, cette tyrannie de la rétention de l'argent produit une perversion et produit comme ça des masques et des séries de mensonges et qui rendent la pièce absolument fantastique à travailler.
Elle s'exerce sous la forme, j'ai essayé de décrire tout à l'heure cet incroyable décor qui est un décor d'entrepôt. Ça peut être, je sais pas, le derrière de chez Ikea ou d'un grand Carrefour ou peut-être d'une entreprise un petit peu plus familiale. Il est chef d'employé qui peut convoquer en parlant dans un micro et des employés dont la soumission peut aller parfois jusqu'à vous le mettez en scène, des soumissions sexuelles, sadomaso. Ouais. Ce décor, il est arrivé comment ? On est vraiment dans les caisses en bois. Quoi.
Ouais, il arrivait par plein d'aspects différents. Moi, tout de suite, quand j'ai en fait, par au moins trois idées. La première, c'est qu'il y a quelque chose dans la pièce qui permet de nous rendre compte que Harpagon n'est pas seulement un usurier ou quelqu'un qui fait de l'argent et de l'argent, mais que c'est aussi un marchand. Et ça, on s'en rend compte quand on comprend que Cléante, son fils qui emprunte de l'argent à son père sans le savoir, va se faire fourguer de la marchandise en échange d'un prêt. Et donc, j'ai tiré ce fil. Donc, en fait, voilà. Donc, si l'avare est un marchand, ok, il a de la marchandise chez lui. Alors ensuite, il y a une deuxième chose qui a compté, c'est étrangement des histoires de mafia. Il se trouve que, un peu avant cette mise en scène, j'avais été très frappé par l'arrestation d'un des chefs de la mafia sicilienne qui s'appelle Bernardo Provenzano. Et en fait, cet homme qui dirigeait la mafia sicilienne, donc qui brassait des milliards de dollars, qui avait une fortune...
Et qui avait lui aussi quelques histoires de famille.
Et voilà, qui était évidemment dans les histoires de famille, en fait a été arrêté après 20 ans de cavale et de clandestinité dans une petite bergerie au-dessus de Corleone. Dégueulasse, misérable, avec des vitres, les fenêtres couvertes de sacs plastiques ou de sacs poubelles pour opacifier, pour le cacher. Quand les flics l'ont trouvé, ça sentait le légume pourri. Il y avait juste une petite table en formica, un bol de viandox, une petite machine à écrire et la Bible. Et cet homme, qui était devenu un vieil homme, qu'on appelait le comptable, dirigeait une mafia gigantesque. Depuis cette petite bergerie et des planques sinistres. Et donc, finalement, avec ce mélange un peu de mysticisme, la Bible et la pauvreté et le pouvoir absolu, finalement, ne pouvait pas lui-même jouir finalement de tout cet argent qu'il brassait et qu'il gagnait, donc vivait dans une très grande austérité. Et tout d'un coup, ça m'a beaucoup frappé, ça. Et j'ai repensé à ça. Et en même temps, puisque j'ai lu un ouvrage sur cette époque, sur Provenzano, de temps en temps, il fallait quand même sortir de ses planques pour réunir les chefs de la mafia. Et donc, ils se réunissaient dans des endroits secrets, et ils venaient avec leurs propres cuisiniers, et ils mangeaient la meilleure mozzarella de Sicile. Enfin, les Italiens. Et c'est, et ce mélange comme ça d'austérité, de violence. Et puis j'ai lu après plein de choses. Enfin bref, je me passionnais aussi pour l'Orestie d'Eschyle, pour les tragédies. Enfin, et donc cette espèce de, cette histoire de filiation, de frustration, d'argent, voilà, de, et puis de mystique de l'argent aussi, de mystique du pouvoir, qui est quand même un truc qui travaille, Harpagon. M'a conduit à cette ambiance un peu d'entrepôt, voilà. Et puis la dernière chose, c'est que on s'est demandé avec Antoine Vasseur, le scénographe, et l'équipe du spectacle, si on avait aujourd'hui, si on voulait trouver des représentations de l'avarice, qu'est-ce que ce serait? Or finalement, il y en a très peu. Enfin, de toute façon, l'avarice est très peu représentée. Tout le monde en a dans les familles, on connaît tous des avares, c'est un vice caché et dégueulasse. Et même les artistes ne s'y intéressent pas. En fait, il y a très peu de choses. Il y a le père Grandet dans Génie Grandet, il y a très peu de trucs chez Balzac, bon. Et puis il y a un film que je recommande aux auditeurs, qui est un film extraordinaire, ça s'appelle Greed, hein, Rapace, qui est le seul film d'Erich von Stroheim, qui a commencé comme cinéaste en fait, et qui a fait un film extraordinaire, noir et blanc, muet, mais qui a coûté tellement cher qu'il a ruiné les studios d'ailleurs, toujours cette histoire-là. Voilà, c'est rigolo. Et voilà, il y a très peu de choses. Et aujourd'hui, dans notre monde, l'avarice intéresse personne. Enfin, je veux dire. Par contre, parce que aujourd'hui, c'est plutôt l'argent qui se voit, l'argent qui se célèbre, l'argent qui se montre, l'argent qui fait office aujourd'hui, évidemment, de canon et presque de religion dans notre monde. Voilà. Alors que chez Molière, c'était un sujet parmi d'autres, de cette manière. Et je me suis dit, finalement, ça pourrait être cet argent qui existe. Parce que très peu de gens aujourd'hui possèdent des fortunes considérables qui passent au-dessus de nos têtes sous forme d'algorithmes ou de banque à banque. Cet argent existe mais n'est pas partagé. Et pourtant, voilà, des milliards d'êtres humains en veulent, enfin en ont besoin aussi pour consommer. Et du coup, ça crée un rapport de frustration très fort et un rapport du coup qui peut s'apparenter à l'avarice, c'est-à-dire cette chose au fond. L'immense majorité des êtres humains sont aujourd'hui frustrés du manque d'argent, alors que très peu le possèdent. Donc j'ai parti de ça aussi. Et du coup, cet entrepôt pourrait être effectivement un bout d'entrepôt d'Amazon, d'une grande société, ou de chez Carrefour, où la marchandise est là. Cette marchandise que tout le monde veut posséder.
Mais l'argent n'est pas distribué.
Ne serais-tu pas un homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché?
Vous avez de l'argent caché?
Ben non, coquin. Je dis pas cela. J'enrage! Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai.
Et que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose?
Ah, tu fais le raisonneur! Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles! Sors d'ici, encore une fois.
Eh bien, je sors.
Attends! Ne m'emporte-tu rien, hein?
Que vous emporterai-je?
Bien ça, que je vois. Montre-moi tes mains.
Les voilà.
Les autres.
Les autres.
Ouais.
Les voilà.
N'as-tu rien mis ici, dedans?
Voyez-vous-même.
Ces grandes hautes choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un.
Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler.
Hein?
Quoi?
Qu'est-ce que tu parles de voler?
Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé.
C'est ce que je veux faire.
La peste soit de l'avarice et des avaricieux.
Comment?
Ce que je dis?
Oui. Qu'est-ce que tu dis? D'avarice et d'avaricieux?
Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux.
De qui veux-tu parler?
Des avaricieux.
Oui, mais qui sont-ils, ces avaricieux?
Des vilains et des ladres.
Mais qui est-ce que tu entends par là?
De quoi vous mettez-vous en peine?
Mais en peine de ce qu'il faut.
Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous?
Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis ça!
Je parle à mon bonnet.
Ah, et moi je pourrais bien parler à ta barrette!
C'est donc Laurent Poitrenaud dans le rôle d'Harpagon et Julien Storini dans le rôle de La Flèche et votre mise en scène de l'avare de Molière, Ludovic Lagarde. Je disais tout à l'heure en introduction, de toute façon, quand on parle d'argent, on est toujours en train de parler d'autre chose. Mmh. Et il me trouve que cette séquence-là, qui on aurait pu en choisir mille autres, est aussi le cœur de ce que vous mettez en exergue dans votre mise en scène. C'est vraiment un propos sur le langage. De quoi est-on exactement en train de parler lorsqu'on s'intéresse à savoir si la flèche a piqué quelque chose à Harpagon? Et là, en l'occurrence, est-ce qu'on n'est pas complètement en train de parler de la folie d'Harpagon, de sa paranoïa, qui a pour objet l'argent, mais ça pourrait être autre chose?
Ouais, on sait d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Il y a une petite chose qu'on apprend au début de la pièce, c'est que l'épouse d'Harpagon vient de mourir, est morte depuis peu de temps. Et cette question du deuil, par exemple, une chose qui passe, c'est une réplique. Hein. C'est très peu. Et pourtant, ça nous a tous frappés et on s'est dit, voilà, il y a quelque chose avec ça. D'ailleurs, c'est par hasard si je fais envahir littéralement la maison familiale par la marchandise, parce que la maison familiale, finalement, après ce deuil, probablement, enfin, Harpagon s'autorise finalement à envahir finalement cette maison de son business. Et l'absence de la mère, des enfants, elle compte énormément aussi. Donc ça, par exemple, c'est une chose qu'on a... Après, il y a ce qu'on appellerait ou ce qu'on appelait le conflit de génération quand même qui est très fort, hein, effectivement. Et le fait que après ce deuil, Harpagon souhaite épouser une très jeune femme qui est la même dont son propre fils est tombé amoureux, ça c'est un sujet quand même aussi très fort et très qui génère beaucoup de conflits et beaucoup de mensonges et beaucoup de manipulations. Hein. La manière dont il traite sa fille aussi est quand même une drôle de chose.
On y reviendra, mais là, il me semble qu'il y a aussi, vraiment, peut-être pour être resté plus précisément sur la question du langage, c'est qu'il y a une mécanique qui est toujours, je suis en train de dire quelque chose, oui, tu es en train d'entendre quelque chose, mais c'est pas exactement ce que je suis en train de dire, qui est au courant que je suis vraiment en train de dire autre chose que ce que je suis en train de dire, bon, et vous le montez, bon, pas exactement en 2018, hein, c'était il y a déjà quelques années, mais vous le montez dans un moment où la question du langage, la manière dont on s'engage dans ce qu'on dit, la manière dont une partie parfois du langage public et médiatique est complètement dévoyée, vous faites du théâtre dans ce monde-là.
C'est vrai, et ça c'est vraiment une des premières intuitions de travail que j'ai eues. D'ailleurs, je me souviens très bien, on a fait une première lecture de la pièce et j'ai tout de suite parlé de ça aux acteurs. C'est-à-dire que si on se reporte à la convention du théâtre de Molière, où les choses se déclament de manière un peu farcesque comme ça, peut-être que ça ressortirait moins, ce dont vous parlez.
Alors que là, il y a plein de choses dites basses.
Oui, mais parce que j'ai senti que c'était un théâtre qui pouvait se dire les yeux dans les yeux. Et du coup, on pouvait se dire tout ça les yeux dans les yeux. Et donc, cette espèce d'étrangeté, du glissement du langage, effectivement, tout d'un coup, jaillit. Parce que c'est pas, on parle pas à l'assistance, on n'envoie pas ça comme ça en l'air, on se le dit dans les yeux.
Donc du coup. Le mensonge est plus pervers.
Exactement. Et du coup, il est aussi, il crée du deuxième, du troisième degré, et il crée, aussi de la violence et de la cruauté et de l'obscénité à des moments. Parce que, si je vous regarde dans les yeux, je vous dis un mensonge énorme, je ne crois pas une seconde, mais c'est pire. Parce que je vous prends pour une imbécile aussi. C'est-à-dire que, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on se manipule, on se comprend sans se comprendre, on se répond, on glisse sur les thèmes, mais on le fait yeux dans les yeux, pas par convention, et de gants, ça devient plus cruel, peut-être plus contemporain, et plus glissant aussi, et plus dangereux, quelquefois.
Vous disiez tout à l'heure, Ludovic Lagarde, que vous n'avez pas vu la mise en scène de Roger Planchon, mais que vous savez qu'elle existe, qu'elle a été là. Mmh. On l'écoute.
Il y a une phrase de Stanislavski, que j'ai lue il y a longtemps, qui était... Il disait comme ceci, quand vous jouez l'avare, il faut chercher par où il est généreux. Et je trouve que c'est très beau. C'est un conseil aux acteurs. Si vous jouez, je sais pas quoi, un méchant, cherchez donc par où il n'est pas méchant. C'est un vrai conseil profond aux acteurs. Stanislavski en a donné comme ça quelques-uns qui sont vraiment de l'or pour les acteurs. Et cette phrase-là, bien, elle explique un petit peu comment j'ai essayé de comprendre l'avare. Parce qu'évidemment, on souligne toujours le côté de l'avarice, mais c'est pas tout à fait la véritable profondeur de la pièce. La véritable profondeur de la pièce, elle est ailleurs. C'est que par exemple, j'en donne qu'un exemple, il est dit dans la pièce, je te donne tout, mon fils, si tu me laisses la petite. Donc, l'avare, qui est soi-disant avare et attaché à l'or, quand il s'agit de parler de l'objet de son amour, eh ben, il dit, je t'abandonne tout, mon fils, tu auras tout ce que tu voudras. Ça n'a aucune importance. Bien sûr qu'il est avare, ça va sans dire, ça va, c'est simple à comprendre, mais en vérité, il s'agit d'une autre histoire qui est en même temps racontée, l'autre histoire est aussi profonde, sinon plus. C'est l'histoire d'un homme qui veut refaire sa vie. Et qui commence cette espèce de marchandage inouï. Comment acheter une femme et en même temps, qu'est-ce que je vais perdre si je la prends? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis d'un seul trou qui se trouve en rivalité avec son fils. Et là, commence une véritable pièce. Enfin, sérieuse, profonde.
Sérieuse, profonde, la pièce de l'avare, mais ici oui. Décrite par Roger Planchon dans une archive à voix nue 1989. Je voyais à la fois sourire et acquiescer de cette archive, Ludovic Lagarde.
Ah ouais, ça fait plaisir d'entendre Planchon parler de la pièce, vraiment. Et je me disais que... Alors, il y a une autre chose aussi, parce que c'est très, très intéressant. On parlait de Louis de Funès, on parlait de toute cette espèce de folklore de la pièce, farcesse, drôle. Et or, cette pièce recèle, c'est un mot bizarre, recelé pour l'avoir, mais évidemment des trésors qui n'ont rien à voir avec ça, et dont Planchon parle, et qui en font une pièce extrêmement profonde, extrêmement noire aussi, et cruelle à plein d'égards. Et Planchon a été très important parce qu'il l'a montée de manière un peu sinistre. Et il a montré que, à travers ça, quelque chose de la pièce que je pense qu'il n'était pas encore vraiment à jour, même si Jouvet en avait déjà l'intuition, Copeau et tout ça, il savait bien qu'il y avait quelque chose dans cette pièce qui n'était pas qu'une farce drôle. Mais lui, il a vraiment marqué, je pense, l'histoire avec sa mise en scène.
Il souligne quoi qu'on ne pouvait pas imaginer? La solitude d'Harpagon, sa tristesse, peut-être son deuil,
ouais.
La difficulté qu'il a à s'imaginer de nouveau heureux.
Ouais.
Qu'est-ce qui est noir pour vous?
Là, Planchon parle de la manière dont Harpagon veut littéralement acheter une jeune femme. C'est quand même un sujet. Évidemment, si on le traite de manière comme ça, un peu en l'air, ça passe. Comme autrefois, peut-être ça passait, mais aujourd'hui, on l'entend de manière très très forte. Le commerce des âmes, le commerce des corps, enfin, surtout en ce moment en plus, avec l'affaire Weinstein dont on parle énormément, à juste titre. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça prend une dimension énorme. Et aussi, je pense, alors ça c'est mon interprétation, que quand Molière écrit la pièce, de cette manière, encore une fois, l'argent n'est qu'un sujet. Je veux dire, le pouvoir féodal, la morale, la religion, l'intégrisme, il y a mille sujets, il y a des catégories de la morale, et puis l'argent est un sujet. Et petit à petit, l'argent a tout grignoté.
Dans nos sujets.
Dans nos sujets à nous. Et d'une certaine manière, du coup, peut-être les siècles avancent, moins, plus les années ont passé, et plus finalement les sujets sont devenus, sont montés à la surface avec une dose de violence et une dose de cruauté supplémentaire. Quand Frosine vient, que joue Christelle Tuel,
d'entremetteuse.
Oui, entremetteuse, exactement. Mais quand elle vient littéralement vendre, comme on vend du bétail. Marianne Harpagon, c'est une scène d'un cynisme et d'une... Et parce qu'elle-même est au bord de la faillite personnelle, a absolument besoin de cet argent pour s'en sortir. Et donc, tous les moyens sont bons pour qu'Harpagon épouse Marianne et que du coup, elle puisse se faire sa commission. Et c'est donc du coup, on est vraiment dans une satire de notre époque incroyable, alors que c'est écrit à la fin du 17e.
Le commerce des âmes et des femmes, il faut peu pour qu'en effet ça devienne extrêmement contemporain pour nous et que ces mots nous sautent aux oreilles. Et vous nous y aidez quand même un tout petit peu, Ludovic Lagarde, en soulignant avec la mise en scène la manière dont le corps des femmes, précisément des jeunes femmes, est empaqueté exactement comme s'il s'agissait de n'importe quelle marchandise qui circule dans cet entrepôt, ou bien en se taguant sur le ventre à hausser, ou bien en se retrouvant à l'intérieur d'un carton qui va partir sur un transpalette. Il fallait trouver justement le juste milieu, là, vraiment dans un geste de mise en scène, ni trop, ni pas assez. Comment est-ce que vous avez travaillé?
Oui, parce que, par rapport à juste, si on revient à ce que Planchon disait aussi, et quand je parlais de la noirceur de la pièce, ce qui est étonnant avec cette pièce, c'est ça, on dit aujourd'hui, sa plasticité. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut en faire une pièce très comique tout le temps, et on peut le faire, si on veut presque la faire comme un drame presque bergmanien, ou je pensais au film de Piala, par exemple, on peut le faire. C'est-à-dire que, elle a un potentiel, elle a une sorte d'amplitude très étrange, qui est assez rare quand même, dans l'histoire du théâtre, je pense. Et ça, c'est assez curieux. Donc, effectivement, ça demande, de ma part et de la part des acteurs, un réglage permanent entre la profondeur, la noirceur et le rire nécessaire à la mécanique aussi du texte, qui en permanence doit se réévaluer. Et moi, j'ai souhaité en tout cas que, mais parce que je le savais d'expérience, c'est vrai, beaucoup de la comédie et des comédies à la française entre nous, enfin si on songe à La Biche, à Feydeau, à ce que ça a donné ensuite, hein, Vaudeville, c'est que plus c'est noir et plus on rit. Enfin, le rire peut jaillir de la noirceur et de la violence, et par contre, évidemment, ça change la qualité du rire. Donc c'est ça que je cherchais en permanence.
Ce que Planchon dit de la profondeur, quoi, plasticité. Et...
Oui, exactement.
Il dit, en faisant appel à Stanislavski, que le conseil qu'il a donné à son propre avare, c'était de chercher là où il était généreux. Qu'avez-vous donné, vous, comme conseil, si c'est sous ces termes-là, à Laurent Poitrenaud, en termes de, je ne sais pas, de trouver l'avare de Molière que vous vouliez voir sur scène?
Bon, j'avais pas une idée préconçue de ce que je voulais voir. En fait, c'est en proposant la pièce à Laurent, de cette manière, je savais déjà ce que j'allais voir. Parce que Laurent, d'abord, on se connaît tellement bien, et puis je sais ce qu'il est capable de faire sur un plateau. Et je pense qu'il a, je crois que c'est pour ça aussi que j'ai tout de suite pensé que c'était un rôle merveilleux pour lui. C'est qu'il a quelque chose qui est rare chez les acteurs, c'est-à-dire il est capable d'une grande virtuosité et il a un potentiel comique énorme, il a un corps comme ça qui parle tout seul. Et puis de l'autre côté, il peut être aussi d'une très grande violence ou d'une très grande sécheresse, ou il peut être très rugueux sur un plateau. Et donc avoir lui-même cette amplitude, moi ça me permettait de me projeter tout de suite dans la pièce et dans le rôle. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble. Après, comme on travaille avec Laurent, c'est-à-dire que on parle pas forcément personnage justement. On aborde les choses de manière assez spontanée et on se dit voilà, scène après scène, finalement, quelle est la vérité du personnage, et comment, et c'est comme ça qu'on construit pas à pas les choses ensemble. Et je pense qu'il donne, il donne une richesse d'interprétation, au contraire. C'est-à-dire que c'est pas simplement un harpagon. C'est un homme qui, à la fois, veut refaire sa vie, comme dit Planchon. C'est un homme qui peut être adorable avec ses enfants, en tout cas sembler adorable avec ses enfants, et en même temps qui peut être d'une grande violence. Donc c'est un grand manipulateur. C'est-à-dire que là, quand vous parliez de folie tout à l'heure, on n'est pas très loin de ça. C'est quelqu'un qui manipule son monde et qui, pour ça, d'une manière, est capable de les séduire, de les caresser, et à un moment donné aussi d'être d'une violence terrible, entre autres avec sa fille à la fin, quand il lui dit, mais en gros, t'aurais mieux fait te suicider plutôt que de me... Enfin... C'est quelqu'un comme ça, je pense. C'est moi, en tout cas, c'est notre interprétation. Je pense que c'est ça qu'on a essayé de donner. C'est-à-dire, c'est quelqu'un au fond de très dangereux, dans la mesure où il peut apparaître bonhomme, hein, comme ultra violent.
C'est pour ça, qu'est-ce que ça veut dire que de pouvoir sonder sa vérité toutes les scènes? Vous avez dit finalement, on a travaillé.
Mais
comme
ça veut dire
ça
que se dire, par exemple, moi, une chose qui m'a intéressé au moment où on travaillait la pièce, il y avait une mode à New York, c'est le norm core, c'est-à-dire, au fond, ne ressembler à rien. Par exemple.
Une mode quoi, vestimentaire?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire mettre le t-shirt le plus banal, les Stan Smith qui ne sont pas des Stan Smith pour passer inaperçu. Et tout ça allait bien avec l'idée que je me faisais justement. Aujourd'hui, par exemple, si on veut représenter un homme très riche, on a beaucoup de mal parce que Zuckerberg, il ressemble à n'importe qui fait ses courses à côté. Avec son sweat à capuche et sa petite tronche. Et donc, finalement, cette banalité, cette normalité, y compris des gens qui possèdent des parties entières du monde, de cette manière. Ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Donc, avec Laurent, on a travaillé sur une certaine banalité aussi.
D'ailleurs, pas de fraises, enfin, on est vraiment dans l'inverse. Hein.
Exactement, un petit bonhomme. C'est intéressant, d'ailleurs, aujourd'hui, en cette semaine, il y a le procès de ce commerçant niçois qui a tiré sur ses voleurs. Et ça, je me souviens très bien, au moment des répétitions aussi, on en parlait beaucoup, parce que c'était juste, il y avait eu le fait divers jusque-là. Et donc, jusqu'où on va pour défendre son or, et ainsi de suite. Et donc, il y a mille choses, et nous, en fait, avec Laurent, on n'a pas voulu se brider, c'est-à-dire qu'on a traité, finalement, énormément d'aspects du personnage pour en donner justement une multiplicité, une richesse, et qui rend, à mon avis, le bonhomme encore plus inquiétant et dangereux.
Parce qu'imprévisible.
Oui.
Ce qui peut presque rejoindre sur un échiquier littéraire et artistique très 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 différent, mais le travail que vous avez fait avec lui sur Providence d'Olivier Cadio, c'est que il est bon, mais c'était aussi le cas avec Un Vage en été, c'est qu'il est tout le temps plusieurs au moment où il parle et puis au fur et à mesure que la pièce avance, comme si peut-être au fond Ludovic Lagarde, c'était ça qui vous intéressait au théâtre. Faire en sorte que des êtres soient vraiment pluriels jusqu'au plus que l'on peut poser à un être de l'être.
Oui, alors après, c'est une manière non psychologique de faire du théâtre, c'est-à-dire que, et ça c'est des grandes discussions qu'on a avec Laurent, ou sur les textes d'Olivier depuis longtemps, Cadio, et je pense ça, mais ça c'est aussi...
Qu'est-ce que ça veut dire une manière non psychologique?
Mais c'est-à-dire finalement...
Olivier Cadio dit beaucoup ça aussi.
Non, mais la psychologie elle est partout, enfin je veux dire, mais simplement il n'y a pas de lien psychologique a priori, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de transition, on ne fait pas de lien. C'est-à-dire que, par exemple, vous montrez un aspect comme un coup de gouache, enfin comme une couleur.
Il n'y a pas de causalité d'un état à l'autre.
Il n'y a pas de causalité, et une autre, et une autre, et une autre. Et c'est finalement le spectateur, alors moi en premier spectateur qui est metteur en scène, qui va composer quelque chose, ou recomposer quelque chose, ou par frôlement, parce que les bords vont se toucher, parce que tout d'un coup des contradictions vont apparaître, qu'on va constituer quelque chose. Mais il n'y a pas forcément de travail de causalité.
Harpagon, sous les conseils de Frosine, va rencontrer Marianne. Il va lui faire une sorte de cours, un peu raté.
Me voici en propre personne. Frosine, quelle figure ! Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappassés les yeux sont assez visibles d'eux-mêmes et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays des astres. Frosine, elle ne répond mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir.
C'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme.
Tu as raison. Voilà, adorable mignonne, ma fille qui vient vous saluer. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go.
Here we go. Here we go. Par les temps qui courent, Marie Richaud. I don't wanna be hiding no more. I don't wanna be running no more. I just wanna be cruising, oh, by the shore. I just wanna be holding hands and more. And I just wanna be free to ignore the hate you keep in store. Sweet addiction to you, let's all reputation.
wanna be running no more. I don't wanna be hiding no more. I just wanna be cruising, oh, by the shore. And I just wanna be free to ignore the hate you keep in store. Oh, sweet addiction,
yeah,
to you.
Got the lights on.
Reputation feels new.
The hate you keep in store.
Oh, sweet addiction.
À part le titre de ce morceau Sweet Addiction, qu'est-ce qui fait que Yuxek débarque dans notre studio Ludovic Lagarde alors qu'on parle de votre mise en scène de L'Avare de Molière?
Alors, Yuxek, Pierre-Alexandre, il travaille depuis quelques années dans les murs de la Comédie de Reims. Il y a un studio d'enregistrement.
Que vous dirigez?
Ouais, que je dirige. Et c'est une des premières choses que j'ai fait d'ailleurs quand j'ai été nommé à la direction. Je suis monté voir ce qu'était devenu le studio que je connaissais. Et il servait un peu de bureau et de poulailler. Et donc j'ai passé un coup de blanc, acheté un peu de matériel. J'ai réactivé ce magnifique studio d'enregistrement.
Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument faire du son, de la musique, dans ce théâtre et faire qu'on en fabrique surtout?
Je trouve c'est extraordinaire. Enfin, c'est un vrai studio dans une maison, enfin dans une maison de théâtre. Ça, c'est vraiment un privilège énorme. Donc, et moi qui travaille beaucoup avec des musiciens, qui fait pas l'opéra, qui travaille avec Rodolphe Burger, plein de trucs. Enfin, j'avais des musiciens contemporains. Enfin, j'avais tout de suite envie que ce studio soit opérationnel. D'ailleurs, on y a fait des musiques pour Annie pour quoi faire avec Rodolphe. On a fait plein de trucs. Et puis on peut faire des voix. On peut. Enfin, c'est un endroit génial. Et ensuite, il se trouve que j'ai rencontré Yuxek, je lui ai fait visiter le studio, et un jour, il a besoin de s'installer dans un nouveau studio à Reims, et du coup, il l'a investi, il a mis toute sa collection de synthés incroyables, ses guitares, et c'est parti. Et il travaille. Et donc, quand j'ai pensé à faire L'Avare, je me suis dit, tiens, voilà, une occasion de lui demander de faire une musique originale pour la pièce, et il l'a fait.
Finalement, cette mise en scène de L'Avare, c'est aussi l'histoire d'un lieu, parce que vous pensez à des jeunes gens, parce qu'ils sont résidents en ce moment, qui sont disponibles pour monter une pièce avec vous. Le décor est pour partie un recyclage d'autres décors et de choses qui traînaient dans les sous-sols à la Comédie de Reims. Yuxek, parce qu'il avait investi le studio, se retrouve à faire la musique. Bon, Laurent Poitrenaud, il est là toujours un peu dans les murs, parce qu'il est toujours un peu dans votre tête. C'est étonnant de voir à quel point c'est vraiment... Ça vous habite autant que vous l'habitez, quoi.
Ouais, c'est vraiment étonnant. Je m'en suis rendu compte après, au fond. Mais c'est vraiment un projet d'une maison. Je pense assez emblématique de ce que j'ai pu faire à Reims pendant ces années. Et c'est ce qu'un lieu permet de faire, c'est la manière où vous conduit à faire. Quand vous êtes un metteur en scène indépendant, vous n'avez pas ce type d'occasion, en fait. Et là, oui, il y avait ces jeunes comédiens permanents, Laurent, puis Christelle Tual, puis Julien Storignier, qui j'avais travaillé. Les décors, comme vous disiez à l'instant, qui étaient pas mal récupérés d'anciennes mises en scène. Et puis, des jeunes comédiens aussi, qui étaient dans la classe, la comédie, qui avaient une petite école, qui font les petits rôles dans la pièce. Donc, et Pierre, donc, qui a fait la musique, Yuxek. Donc, ouais, c'est étonnant. Je pense que ça, il n'y a eu qu'un projet comme ça en 10 ans. C'est cet Avare, en fait, qui a, saisi d'une certaine manière l'aventure rémoise.
Quand on décide de monter L'Avare de Molière, après avoir monté pas mal de textes, de Cadio, mais d'autres choses. Est-ce qu'on le fait aussi en se disant, directeur d'un lieu à Reims, c'est la possibilité d'une ouverture généreuse, destinée au public le plus large possible? Est-ce qu'il y a dans votre geste de monter L'Avare cette recherche-là?
Ouais. Oui, c'était clair, c'était ça. C'était ouvrir la saison en 2014 avec une pièce comme ça pour un public le plus large possible. Et d'ailleurs, je pense que ça a été une vraie expérience pour moi. C'est-à-dire que j'avais jamais fait ça, de recevoir les familles entières le dimanche qui viennent voir le grand classique du théâtre français.
Joyeuse expérience.
Ouais, très joyeuse. Très joyeuse parce que je pense que je l'ai fait dans une très grande liberté. D'ailleurs, sans me dire il fallait que ça tourne. Je me suis mis aucune contrainte. Et je pense qu'on a fait vraiment le projet qu'on voulait faire. Donc on a enlevé quelque chose de L'Avare à tout le monde, hein, et puis on l'a redonné. Enfin, et je sentais dans le regard des familles qui venaient avec leurs enfants le dimanche à Reims que ça avait marché, que ils entendaient ce grand texte du répertoire à travers cette mise en scène qui les dépossédait d'une certaine manière de...
D'un imaginaire préexistant.
D'un... Exactement.
Bon, dans cette mise en scène, j'espère que nos auditeurs ont une toute petite effective mémoire immédiate pour se souvenir du rap, comment le décrire ? Délicat ? De Laurent Poitrenaud jouant à Harpagon et déclarant sa flamme à Marianne sous les yeux ébahis de ses deux enfants qui ont une sorte d'enceinte qui diffuse une plage musicale et de l'intrigante qui se dit que franchement tout ça va pas très très bien se passer. Là c'est vraiment une intuition de mise en scène assez géniale. Ludovic Lagarde, elle vous vient comment que cette tirade soit une sorte de rap foireux?
C'est Laurent qui arrive avec cette idée. On travaille toute cette séquence, ça met pas mal de temps en fait de trouver la moustache, ça on n'a pas parlé, mais le grimage de Laurent, sa transformation,
ses lunettes,
etc., le costume, enfin ça fait l'objet de beaucoup de recherches et finalement on arrive à ce moment-là, Marianne est là et tout d'un coup un jour en répétition Laurent arrive avec ça. Et ça, et on se marre comme des fous et ben, c'est parti quoi.
C'est de la drague qui marche pas, enfin qui est...
Ouais.
Mais qui est tellement très tendre à
mais
regarder.
Ça vient, oui, mais ça, c'est du jeunisme aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. C'est un homme dans la pièce qui a 60 ans et qui, tout d'un coup, pour séduire...
Comment draguer une jeune femme, quoi.
Une très jeune femme se met... Alors voilà, ça, on pense à certains hommes politiques. Voilà, il y a des images qui viennent comme ça.
Oui, ou à des scènes de drague. Ton père est un voleur, disais-je à la régie. Il a mis toutes les étoiles dans tes yeux.
Dans la liste des personnages de l'avare, il y a un maître Simon dont la définition est courtier. C'est le premier trader qui entre en comédie. J'exagère parce que ce courtier-là ne fait pas les actions que font les traders. Mais tout de même, nous avons là une relation nouvelle où la valeur symbolique de l'argent commence à être, prise en compte par la comédie et va jouer son plein rôle, c'est-à-dire dans le caractère fantasmatique de l'argent. Il y a un fantasme de la galère comme il y a un fantasme de la cassette d'Harpagon, signe de possession ou de dépossession, signe de prise ou signe de perte, et qui fait que le vieux monde, qui est le monde d'Harpagon, le monde des vieillards, le monde de l'époque où on pouvait thésauriser en accumulant, est en train de laisser place à un nouveau monde, qui est le monde de la jeunesse, je parlais de ce rite de passage, qui est un monde où l'argent est fait pour circuler, où l'argent est fait pour devenir, par exemple, vêtements. Et il détaille, et comme Argan détaillait son corps et tous ses viscères, là il détaille les composantes du vêtement, en essayant d'évaluer le prix de chaque composante. Et dans ce détail, il y a le signe que, pour le jeune homme, l'argent, c'est comme le sang de la société. Il est dans toutes les veines et puis il a pour but de nourrir la vie. Pour Harpagon, l'argent est dans la rétention. Il se met au fond de cette cassette et il le dit lui-même, il n'a même pas confiance dans les coffres-forts. Donc il y a une manière de l'attirer. C'est à la fois celui qui attire l'argent et là il y a du mouvement et Dieu sait qu'il agit pour attirer en prenant des prête-noms, enfin des hommes de paille. Enfin. Mais d'un autre côté, il est aussi celui qui gèle les choses, celui qui sclérose le mouvement. Et on voit bien qu'autour de lui, on essaie de donner de la vie et du mouvement, et la comédie, c'est le don de la vie, à cette momification, en quelque sorte, qu'incarne le personnage âgé, qu'incarne le personnage d'Harpagon, qui a une fraise autour du cou, qui est habillé à l'ancienne, qui ne veut rien faire sortir de chez lui. Le mouvement chez Harpagon n'est jamais un mouvement de va-et-vient. On ne peut pas faire entrer et sortir. Il faut toujours faire entrer, mais jamais faire sortir.
C'est Patrick Dandra qui n'a plus de souffle à la fin de ses phrases et qui était dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance en 2013 sur France Culture. Est-ce que vous lisez la pièce de la même manière, Ludovic Lagarde, l'opposition entre un Harpagon qui gèle et les nouvelles générations qui travaillent à la circulation?
Oui, ça existe. Ça existe dans la pièce complètement. Je pense que
mais ça ne semble pas être si...
C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Ça existe dans la pièce, mais comme on pourrait dire aussi que la, voilà, faire circuler, c'est la vie. Donc effectivement, il y a un rapport à la mort du père. D'ailleurs, on parle en permanence de sa mort. Et d'ailleurs.
Et vous le congelez et vous finissez par en gros l'enterrer, quoi.
C'est clair. Et d'ailleurs, Molière, quand il écrit et joue cette pièce, commence à être malade. À un moment donné, Harpagon commence à tousser, dit voilà, j'ai mon. J'ai ma fluxion qui me prend de temps en temps, c'est vrai. Parce qu'il commence à tousser, en fait.
Molière lui-même.
Molière lui-même. Et donc, il y a quelque chose d'une morbidité quand même qui circule dans cette pièce, et qu'effectivement, quand le sentiment de la mort arrive, on a plutôt tendance à vouloir retenir, et finalement, les jeunes, eux, veulent que ça circule. Voilà. Donc, il y a quelque chose avec ça qui est assez inquiétant et profond dans la pièce, je pense. Après, effectivement, il y a une dimension chez Harpagon que donne Laurent, évidemment, qui est aussi une virtuosité, aussi une puissance de séduction, aussi une puissance comique, et qui n'est pas du tout dans la rétention.
Et qui n'est pas gelé, quoi.
Non, qui n'est pas gelé du tout. Parce que c'est aussi, il a beau être un vieillard, soi-disant, il est un homme encore très vert. Donc, il y a tous ces paradoxes de la mort qui vient, en même temps de la verdeur, en même temps de la, voilà. Donc, c'est
aussi...
pas si simple.
Aussi parce qu'il y a du désir. Dans sa discussion avec celle qui est l'intrigante et qui le rend beau, lui fait croire qu'il est désirable parce que elle l'incite à rencontrer Marianne elle-même pour s'enrichir. Mmh. Il se regarde dans votre mise en scène dans une tablette. Ah bon, t'es sûr? Je suis encore finalement un peu beau gosse. Tu crois que je peux y aller? Est-ce que je suis pas si vieux? Ah non, cette femme va adorer. Il lui faut au moins des sexagénaires. Mmh. Ce qui le rend loin de la totale morbidité, c'est qu'il désire encore.
Bien sûr.
Et que c'est un homme qui a en fait quand même envie de vivre.
Et d'où la rivalité avec le fils. Sinon, il n'y a pas de vrai conflit de génération. Il n'y a pas cette rivalité très puissante dans la pièce avec le fils. S'il n'y a pas ce désir de vie et de vitalité et de sexualité encore de chez Harpagon.
Dans le propos de Patrick Dandré, il y a l'idée d'un ancien monde et d'un nouveau monde. Quand même, juste pour la blague, en 2014, vous montez cette pièce pour la première fois, Ludovic Lagarde, et ancien monde, nouveau monde, c'est les choses les plus répétées par notre président de la République, Emmanuel Macron, qui à l'époque arrive à Bercy. Est-ce que, d'une part, là, en l'écoutant aujourd'hui, en 2018, quand vous entendez ça dit par vos comédiens, vous y songez? À l'idée comme ça extrêmement forte et ancrée chez Emmanuel Macron de produire un nouveau monde? Et d'autre part, en aviez-vous l'intuition en 2014?
Non. J'en ai ni pas l'intuition, ni l'un ni l'autre, mais par contre, non, je pense pas ni à Macron. Non, je pense
jamais à Macron.
C'est pas vrai, je pense bien sûr à notre cher président de la République. Non, je pense rarement à Emmanuel Macron, mais dans le travail. Mais par contre, ce qui est assez amusant, c'est que quand je crois qu'en Molière écrit, il y a une très grande politique d'austérité en France, comme par hasard. Et c'est Colbert qui passe partout et qui serre la vis, et donc ça vient de quelque part, hein, quand même. Donc ce sont des vieilles questions. Voilà. Mais non, j'ai pas pensé à Emmanuel Macron.
On y pense pour vous.
Voilà.
Sur le rythme, on se trompe complètement. Surtout les gens de théâtre, en général, confondent le rythme et la vitesse. Hein. Ils disent « Ah, ça manque de rythme ». Il faut donner du rythme, ça veut dire qu'il fallait plus vite. Évidemment que le rythme n'est pas la vitesse, et ça n'est pas forcément non plus un battement. Étymologiquement, ça veut dire, en grec, c'est plutôt l'idée de couler. Donc, c'est le rythme, c'est de trouver comment coule le langage, comment coule la parole. Et autant que je sache, peut-être encore provisoirement, mais nous sommes encore libres de respirer et de parler au rythme que nous voulons. Et que, par conséquent, d'autant plus au théâtre qui est un monde de liberté, puisque c'est un monde imaginaire, on peut donc maîtriser complètement sa liberté de respiration avec un texte, avec l'émission du texte et avec les mouvements internes qui sont inclus secrètement dans le texte et qu'on ressent évidemment dans son inconscient et dans son corps même. Et que ce rythme de la parole infléchit même la manière de bouger, la manière de marcher et le rythme de la marche, parce que j'ai cru découvrir aussi, je ne peux pas le prouver du tout, qu'il y a un lien intime entre le geste et la parole. Et c'est ça qui est souvent très pénible à voir au théâtre, parce que les acteurs bougent beaucoup, d'ailleurs, dans le plus grand désordre et sans nécessité, et ils parlent en général aussi très vite. Et il n'y a aucun rapport entre l'émission de la parole et la vie du corps. Alors que je crois que la parole est du corps, qu'elle vient du corps, qu'elle résonne dans des chambres de résonance des tissus du corps, et que il est nécessaire de relier complètement la parole et le geste, et qu'il y a il doit y avoir en nous un centre quelque part, une source quelque part, où s'initie le départ de la parole et où s'initie le départ du geste. Et je crois que tant que l'acteur n'a pas écouté en lui, ne s'est pas arrêté de s'activer et n'a pas écouté en écoutant l'écriture d'où ça parle, et en trouvant d'où ça parle, on trouve en même temps d'où ça bouge. Et il ne s'agit pas de bouger en dehors de ce que dicte la sensibilité de la source de la parole.
C'est une archive de Claude Régis dans Surprépare la nuit sur France Culture, diffusée en 2002, Ludovic Lagarde. Vous avez parlé un petit peu de la manière dont vous avez travaillé sur ce texte de Molière, peut-être en adressant moins, en étant moins dans la déclamation au social et en faisant qu'on puisse se mentir les yeux dans les yeux pour que la perversion atteigne le plus haut point. Quand on entend Claude Régis parler de rythme et de vitesse, quels ont été là vos points de travail avec Laurent Poitrenaud et les autres comédiens ?
C'est étonnant parce que en l'écoutant, je pensais, il y a encore très peu de temps, quelques jours, on parlait avec Julien Storini, justement La Flèche, d'un moment où quand il arrive, c'est sa première entrée, après qu'il y a eu ses deux premières scènes, où ça parle beaucoup. Il rentre comme ça, subrepticement, et il se promène dans l'espace. Et à un moment donné, il a voulu s'arrêter pour faire une action, bref. Et je lui ai dit, mais ne t'arrête pas. En fait, la grâce de ce moment, c'est la longueur du silence. Et c'est le fait que tu puisses te promener comme ça, dans le silence, dans cet espace, avant qu'Harpagon te chope. Et c'est curieux, parce que je pensais à ça, justement. C'est-à-dire que tout d'un coup... là, il s'agit de silence, mais comment, finalement, cette fluidité dont on parlait...
Parce que c'est quand même 2h35 de théâtre.
Oui,
hein,
mais justement, ce silence et cette fluidité dans le silence, justement, vient contrer la violence de la parole d'Harpagon.
De même, quand Harpagon fait silencieusement le tour du corps de Marianne, c'est quelques secondes.
Oui.
Mais c'est beaucoup de choses, quoi. Oui, oui. Il lui tâte un tout petit peu le bras, oui. Il regarde comment elle est faite. Là encore, marchandise.
Bien sûr. Après, pour parler de un peu plus précisément de ce dont parle Claude Régis, il parle aussi... je crois que les acteurs français ont fait beaucoup de progrès. Je crois que le théâtre français progresse. Voilà. Non, mais vraiment, je pense qu'au contact du théâtre allemand, du théâtre européen, des expériences partagées, je pense que génération après génération, le théâtre s'ouvre. Et on disait effectivement du théâtre français, moi, au début.
Qu'il était agité?
Non, on faisait ça, c'est-à-dire que c'était que la tête. C'est que les acteurs français avaient la réputation de jouer juste avec la tête, quoi. Ça, ils n'avaient pas de corps. C'est quelque chose qui se disait vraiment. Et alors, d'où ça venait, peut-être, d'un certain type de répertoire classique, de la langue, de exacerbé, enfin. Et je pense que les choses ont changé beaucoup. Et qu'il y a un engagement du corps, un langage du corps chez la jeune génération. Et quand on voit le jouer Laurent, son corps parle avec lui. Et qu'on ne peut pas distinguer, justement, le sens de la parole du corps. Il y a un langage du corps chez Laurent qui est incroyable. Et je crois que, en tout cas, dans le travail que je fais moi avec les acteurs, j'essaye autant que je puisse
de chercher ça.
Chercher ça vraiment.
Tout à l'heure, on est passé rapidement sur la politique d'austérité économique que vit Molière lorsqu'il écrit la pièce. 2014, est-ce que vous pensez à la politique d'austérité que vit le monde de la culture et par exemple la Comédie de Reims, Ludovic Lagarde ?
Bien sûr, j'y pensais beaucoup.
Chaque jour, j'imagine.
Ouais, on y pense beaucoup, ouais, effectivement. Ouais, ce qu'on appelle le disponible artistique de nos maisons baisse d'année en année de manière insidieuse mais réelle.
Ça retient l'argent à un certain endroit qui ne circule pas à d'autres endroits.
Absolument, absolument, absolument. Alors c'est toute une économie du théâtre qui a changé. Hein. Les moyens pour les compagnies se font de plus en plus drastiques et du coup il faut 2 ans maintenant pour monter un projet là où 1 an suffisait autrefois. Dans nos maisons, beaucoup moins de créations peuvent se faire, ou alors il faut inventer des nouveaux modes, ce que j'ai essayé de faire à Reims, d'économies qui permettent de maintenir un certain niveau de création, mais en mutualisant, en salariant, enfin, en se débrouillant de cette manière. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus compliqué que ça n'a été.
Du 2 au 30 juin, on pourra voir votre Avare au Théâtre de l'Odéon à Paris. Merci beaucoup d'avoir été là. On termine par une petite madeleine pour tout le monde.
Au voleur ! Au voleur ! Un assassin ! Au meurtrier ! Justice ! Juste au ciel ! Je suis perdu ! Je suis assassiné ! On m'a coupé la gorge ! On m'a dérobé mon argent ! Qui peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ?
Ah ! Que ferai-je pour le trouver ? Vous courriez ! Vous ne pas courriez ! N'est-il point là ? N'est-il point ici ?
Qui est-ce ? Arrête, rends-moi mon argent, coquin ! Oh, c'est moi ! Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent ! Mon pauvre argent ! Mon cher ami ! On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en vis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris ? Hein ? Que dites-vous ? Ce n'est personne. Oh.
Pas facile, gagner l'argent français, bosser, bosser. Pas facile, gagner l'argent français.
Au son ce soir, c'était Pierre Montaille à la réalisation, Lise-Marie Barré, Jeanne Aléos, Romain Debec-de-Lièvre et Léa Mormin-Chauvac m'aident à penser cette émission. Vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr et bien sûr vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. On se retrouve demain à 21h sur France Culture. C'est pas...